Lavanoz avait à la fois tous les vices et toutes les vertus d'une courtisane espagnole. Dévote envers la Madone jusqu'à la superstition, tendre envers ses enfants jusqu'à la faiblesse, complaisante envers Roderick jusqu'à la débauche, mais confiante au fond de l'âme dans la force d'un pouvoir qu'elle exerçait depuis près de 30 ans, et certaine, comme le serpent, d'étouffer dans ses replis quand elle ne pouvait pas fasciner par son regard. Vanoz connaissait la profonde hypocrisie de son vieil amant, et par conséquent, elle n'eut pas de peine à rassurer César. Lucrèce était près de la Vanoz quand César était arrivé. Les deux jeunes gens échangèrent sous les yeux mêmes de leur mère un baiser incestueux, et avant de se retirer, César avait pris pour le soir même rendez-vous avec Lucrèce, qui, séparée de son mari, à qui Roderick payait une pension, vivait en toute liberté dans son palais de la Via del Pellegrino, situé en face du Champ des Fleurs. Le soir, à l'heure convenue, César se rendit chez Lucrèce. Mais il y trouva son frère François. Les deux jeunes gens ne s'étaient jamais aimés. Cependant, comme leurs cœurs étaient bien différents, la haine, chez François, était la crainte instinctive que le daim éprouve pour le chasseur, tandis que la haine, chez César, était ce besoin de vengeance et ce désir de sang qui vit incessamment dans le cœur du tigre. Les deux frères ne s'en embrassèrent pas moins, l'un par bienveillance, l'autre par hypocrisie. Mais en l'apercevant, le sentiment de leur double rivalité dans les bonnes grâces de leur père et de leur sœur avait fait monter la rougeur au visage de François et la lividité à celui de César. Les deux jeunes gens s'assirent donc, décidés à ne pas sortir l'un sans l'autre, lorsqu'on frappa à la porte et qu'on annonça un rival devant lequel l'un et l'autre devaient se retirer. C'était leur père. Vanoz avait eu raison de rassurer César. En effet, Alexandre VI, tout en se déchaînant contre les abus de la famille, avait déjà compris le parti politique qu'il pouvait tirer de ses fils et de sa fille. Car il savait que, pour toute chose, il pouvait compter, sinon sur François et sur Guifry, mais sur Lucrèce et sur César. En effet, de ce côté, la sœur était le digne pendant du frère. Libertine par imagination, impie par tempérament, ambitieuse par calcul, Lucrèce avait un âpre besoin de plaisir, de louanges, d'honneur, d'or, de pierreries, d'étoffes soyeuses et de palais magnifiques. Espagnole sous ses cheveux blonds, courtisane sous son air candide, elle avait la tête d'une Madone de Raphaël et le cœur de Messaline. Aussi était-elle chère et comme fille et comme maîtresse à Roderick, qui voyait se réfléchir en elle, comme un miroir magique, toutes ses passions et tous ses vices. Lucrèce et César étaient donc les bien-aimés de son cœur et composaient la trinité diabolique qui demeura 11 ans sur le trône pontifical comme une sacrilège parodie de la trinité céleste. Au reste, rien ne démentit d'abord les principes émis par Alexandre dans le discours qu'il avait fait à César, et la première année de son pontificat dépassa les espérances qu'avaient conçues les Romains lors de son élection. Il pourvut à l'approvisionnement des greniers publics avec une si grande libéralité que, de mémoire d'homme, on avait joui d'une si merveilleuse abondance, et afin que le bien-être descendît jusqu'aux dernières classes, de nombreuses aumônes, prélevées sur sa fortune particulière, permirent aux pauvres mêmes de participer à ce banquet général dont, depuis longtemps, ils étaient exclus. Quant à la sûreté de la ville, elle avait été rétablie dès les premiers jours de son avènement à la tiare par une police ferme et vigilante et par un tribunal composé de 4 docteurs de réputation irréprochable chargés de poursuivre tous les crimes nocturnes, si communs sous le précédent pontificat que leur nombre même leur assurait l'impunité et qui donnèrent dès leur premier jugement l'exemple d'une sévérité que ne purent adoucir ni le rang ni la fortune des coupables. Cela faisait un si grand contraste avec la corruption du règne précédent, pendant lequel le vice-camérier répondait publiquement à ceux qui lui reprochaient la vénalité de la justice « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive et qu'il paie », que la capitale du monde chrétien se crut ramenée un instant au beau jour du pontificat. Aussi, au bout d'un an de règne, Alexandre VI avait déjà reconquis le crédit spirituel perdu par ses prédécesseurs. Rester pour accomplir la première partie de son plan gigantesque à établir son crédit politique. Il avait, pour arriver à ce but, deux moyens à employer, les alliances ou les conquêtes. Il dut commencer par tenter les alliances. Le gentilhomme aragonais, qui avait épousé Lucrèce quand elle n'était que la fille du cardinal Rodrigue Borgia, n'était pas un homme assez puissant, ni par la naissance, ni par la fortune, ni par le génie, pour entrer avec quelque influence dans les combinaisons du pape Alexandre VI. La séparation fut donc convertie en divorce et Lucrèce Borgia se trouva libre de se remarier. Alexandre VI entama deux négociations à la fois. Il avait besoin d'un allié qui pût veiller pour lui sur la politique des États qui l'entouraient. Jean Sforza, petit-fils d'Alexandre Sforza, frère du grand François Ier, duc de Milan, était seigneur de Pesaro. La situation topographique de cette place, située au bord de la mer, entre Florence et Venise, lui convenait donc merveilleusement. Aussi jeta-t-il d'abord les yeux sur lui, et comme les intérêts étaient les mêmes des deux côtés, Jean Sforza devint bientôt le second mari de Lucrèce. En même temps, des ouvertures avaient été faites à Alphonse d'Aragon, héritier présomptif de la couronne de Naples, pour entamer un mariage entre Donia Sancia, sa fille naturelle, et Guifri, troisième fils du pape. Mais comme le vieux Ferdinand voulait tirer le meilleur parti possible de cette alliance, il traîna les négociations en longueur, objectant que les deux enfants n'étaient point encore nubiles, et que, par conséquent, quelque honneur que dût lui faire une pareille alliance, rien ne pressait à l'endroit de leur fiançailles. Les choses en restèrent là, au grand mécontentement d'Alexandre VI, qui ne se trompa point à cet ajournement, et prit la défaite qui lui était donnée pour ce qu'elle était réellement, c'est-à-dire pour un refus. Alexandre et Ferdinand demeurèrent donc dans la même situation qu'auparavant, joueurs politiques d'égale force et attendant que les événements se déclarassent pour l'un ou pour l'autre. La fortune fut pour Alexandre. L'Italie, quoique tranquille, sentait instinctivement que ce calme n'était rien autre chose que la torpeur qui précède l'orage. Elle était trop riche et trop heureuse pour n'être point enviée par toutes les autres nations. En effet, la négligence et la jalousie de la République florentine n'avaient point encore fait un marais des plaines de Pise. Les guerres des Colonna et des Orsini n'avaient point encore changé les riches campagnes de Rome en un désert inculte. Le marquis de Marignan n'avait point encore rasé dans la seule République de Sienne 120 villages. Enfin, la Marème était déjà insalubre, mais point encore mortelle. Et Flavio Glondo, en décrivant, en 1450, Ostie, qui ne compte plus aujourd'hui que 30 habitants, se contente de dire qu'elle était moins florissante que du temps des Romains, époque à laquelle elle en comptait 50 000. Quant aux paysans italiens, ils étaient peut-être les plus heureux de la terre. Au lieu de vivre disséminés dans les champs et isolés les uns des autres, ils habitaient dans des bourgades fermées de murs qui protégeaient leurs récoltes, leur bétail et leurs instruments. Leurs maisons, du moins celles qui restent de cette époque, prouvent qu'ils étaient logés avec plus de bien-être, d'art et de goût que ne le sont encore aujourd'hui les bourgeois de nos villes. Enfin, cette réunion d'intérêts communs, cette agglomération d'individus dans des villages fortifiés, leur avait, petit à petit, laissé prendre une importance que n'avaient ni les manants de France, ni les serfs d'Allemagne. Ils avaient des armes, un trésor commun, des magistrats élus, et lorsqu'ils combattaient, au moins eux, c'était pour défendre une patrie. Le commerce, d'ailleurs, n'était pas moins florissant que l'agriculture. L'Italie, à cette époque, était couverte de fabriques où l'on travaillait la soie, la laine, le chanvre, les pelleteries, l'alun, le soufre et le bitume. Ceux de ces produits que le sol ne produisait pas étaient amenés dans ses ports, de la mer Noire, de l'Égypte, de l'Espagne et de la France, et repartaient souvent pour les lieux d'où ils étaient venus, après que le travail et la main-d'œuvre en avaient doublé la valeur. Le riche apportait ses marchandises, le pauvre son industrie. L'un était sûr de ne pas manquer de bras et l'autre était sûr de ne pas manquer de travail. L'art, de son côté, n'était point demeuré en arrière. Dante, Giotto, Brunelleschi, Donatello étaient morts, mais Larios et Raphaël, Bramante et Michel-Ange venaient de naître. Rome, Florence et Naples avaient hérité des chefs-d'œuvre de l'Antiquité, et les manuscrits d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide étaient venus, grâce à la conquête de Mahomet II, rejoindre les statues de Xantippe, de Phidias et de Praxitèle. Les principaux souverains de l'Italie avaient donc compris, en arrêtant les yeux sur ces grasses moissons, sur ces riches villages, sur ces florissantes fabriques et sur ces merveilleuses églises, et en les reportant ensuite sur les peuples barbares, pauvres et guerriers qui les entouraient, qu'ils allaient un jour ou l'autre devenir aux autres nations ce que l'Amérique était à l'Espagne, c'est-à-dire une vaste mine d'or à exploiter. En conséquence, dès 1480, Naples, Milan, Florence et Ferrare avaient signé une ligue offensive et défensive prête à faire face aussi bien aux ennemis du dedans qu'à ceux du dehors, aux péninsulaires qu'aux ultramontains. Louis Sforza, qui était le plus intéressé au maintien de cette ligne parce qu'il était le plus rapproché de la France, côté d'où paraissait menacer l'orage, vit dans l'élection du nouveau pape un nouveau moyen non seulement de resserrer cette ligue, mais encore de la faire apparaître aux yeux de toute l'Europe dans sa puissance et dans son unité. À chaque exaltation nouvelle, il est de coutume que tous les États chrétiens envoient à Rome une ambassade solennelle pour renouveler, au nom de chacun d'eux, leur serment d'allégeance au Saint-Père. Louis Sforza eut l'idée de réunir les ambassadeurs des quatre puissances de manière à ce qu'ils fissent leur entrée le même jour dans Rome et de charger un seul des envoyés, celui du roi de Naples, par exemple, de porter la parole au nom de tous. Malheureusement, ce plan concordait mal avec les projets magnifiques de Pierre de Médicis. L'orgueilleux jeune homme, qui avait été nommé ambassadeur de la République florentine, avait vu, dans la mission que lui avaient confiée ses compatriotes, un moyen de faire briller son faste et d'étaler ses richesses. Depuis le jour de sa nomination, son palais ne désemplissait pas de tailleurs, de joailliers et de marchands d'étoffes. Il s'était fait faire des habits splendides, brodés de pierres précieuses qu'il avait tirées du trésor de la famille. Tous ces joyaux, les plus riches de l'Italie peut-être, étaient semés sur les habits de ses pages, et l'un d'eux, son favori, devait porter un collier de perles évalué à lui seul 100 000 ducats, c'est-à-dire près d'un million de notre monnaie actuelle. De son côté, l'évêque d'Arezzo, Gentile, qui avait été professeur de Laurent de Médicis, était le second ambassadeur nommé et devait porter la parole, et Gentile, qui avait préparé son discours, comptait autant sur son éloquence pour charmer les oreilles que Pierre de Médicis sur sa richesse pour éblouir les yeux. Or, l'éloquence de Gentile était perdue si c'était l'envoyé du roi de Naples qui portait la parole, et la magnificence de Pierre de Médicis était inaperçue s'il entrait à Rome confondu avec tous les autres ambassadeurs. Ces deux graves intérêts, compromis par la proposition du duc de Milan, changèrent toute la face de l'Italie. Louis Sforza avait déjà la promesse de Ferdinand de se conformer, pour sa part, au plan qu'il avait imaginé lorsque le vieux roi, sollicité par Médicis, retira tout à coup sa parole. Sforza s'informa d'où venait ce changement et apprit que l'influence qui avait vaincu la sienne était celle de Pierre. Ne pouvant se rendre compte des motifs réels qui avaient dicté cette opposition, il y vit une ligue secrète contre lui et attribua à la mort de Laurent de Médicis ce changement de politique. Au reste, cette cause, quelle qu'elle fût, lui était visiblement préjudiciable. Florence, vieille alliée de Milan, l'abandonnait pour Naples. Il résolut de jeter un contrepoids dans la balance et dévoilant à Alexandre la politique de Pierre et de Ferdinand, il lui proposa une alliance offensive et défensive à laquelle ils adjoindraient la République de Venise. Le duc Hercule III de Ferrare serait en même temps sommé de se prononcer pour l'une ou pour l'autre des deux alliances. Alexandre VI, blessé de la conduite de Ferdinand à son égard, accepta la proposition de Louis Sforza et l'acte de confédération par lequel les nouveaux alliés s'engageaient à mettre sur pied, pour le maintien de la paix publique, une armée de 20 000 chevaux et de 10 000 fantassins, fut signé le 22 avril 1493. Ferdinand vit avec crainte se former cette ligue. Mais il crut avoir le moyen d'en neutraliser les effets en dépouillant Louis Sforza de sa puissance qui, sans être usurpée encore, se prolongeait déjà bien au-delà du terme qu'elle aurait dû avoir, puisque, quoique le jeune Galéas, son petit-fils, eût atteint l'âge de 22 ans, Louis Sforza n'en continuait pas moins de tenir la régence. En conséquence, il invita positivement le duc de Milan à résigner le pouvoir souverain entre les mains de son neveu, sous peine d'être déclaré usurpateur. Le coup était terrible, mais il avait le danger de porter Louis Sforza à quelques-unes de ces combinaisons politiques qui lui étaient familières et devant lesquelles il ne reculait jamais, quelque dangereuses qu'elles fussent. Ce fut ce qui arriva effectivement. Sforza, inquiété dans la possession de son duché, résolut de menacer Ferdinand dans celle de son royaume. Rien n'était plus facile. Il connaissait les dispositions belliqueuses de Charles VIII. Il savait les prétentions de la maison de France sur le royaume de Naples. Il envoya deux ambassadeurs pour inviter le jeune roi à réclamer les droits de la maison d'Anjou, usurpés par celle d'Aragon, et pour mieux l'engager dans cette entreprise lointaine et hasardeuse, il lui offrit un passage facile et amical par ses propres états. Avec le caractère connu de Charles VIII, une pareille proposition ne pouvait manquer d'être acceptée. En effet, un horizon magnifique s'ouvrait devant lui comme par enchantement. Ce que lui offrait Louis Sforza, c'était la domination de la Méditerranée, c'était le protectorat de l'Italie tout entière. C'était enfin, par Naples et par Venise, un chemin ouvert qui pouvait conduire à la conquête de la Turquie ou de la Terre Sainte, selon qu'il lui plaisait de venger les désastres de Nicopolis ou de Mansoura. La proposition fut donc accueillie et, par l'intermédiaire du comte Charles de Belgioioso et du comte de Caiazzo pour Louis Sforza et de l'évêque de Saint-Malo et du sénéchal de Beaucaire pour Charles VIII, une alliance secrète fut signée par laquelle il fut convenu que le roi de France tenterait la conquête du royaume de Naples, que le duc de Milan ouvrirait au roi de France le passage par ses états et l'accompagnerait avec 500 lances, que le duc de Milan permettrait au roi de France d'armer à Gênes autant de vaisseaux qu'il voudrait, qu'enfin le duc de Milan prêterait au roi de France 200 000 ducats payables au moment de son départ. De son côté, Charles VIII s'engagea à défendre l'autorité personnelle de Louis Sforza sur le duché de Milan contre quiconque tenterait de l'en dépouiller, à laisser dans Asti, ville appartenant au duc d'Orléans par l'héritage de Valentine Visconti, sa grand-mère, 200 lances françaises toujours prêtes à secourir la maison Sforza. Enfin, à abandonner à son allié la principauté de Tarente aussitôt après la conquête du royaume de Naples. Ce traité à peine conclu, Charles VIII, qui s'en exagérait encore les avantages, songea à se faire aussitôt libre de tous les empêchements qui eussent pu retarder ou entraver son expédition. Cette précaution était nécessaire, car ses relations avec les grandes puissances étaient loin d'être telles qu'il aurait pu les désirer. En effet, Henri VII était débarqué à Calais avec une armée formidable et menaçait la France d'une nouvelle invasion. Ferdinand et Isabelle, rois des Espagnes, avaient sinon contribué à la chute de la maison d'Anjou, du moins avaient soutenu la branche d'Aragon de leur argent et de leurs soldats. Enfin, la guerre avec le roi des Romains avait pris une nouvelle force du renvoi que Charles VIII avait fait de Marguerite de Bourgogne à Maximilien son père et du mariage qu'il avait contracté avec Anne de Bretagne. Par le traité d'Étaples, en date du 3 novembre 1492, Henri VII se détacha de l'alliance du roi des Romains et s'engagea à ne point poursuivre ses conquêtes. Il en coûta à Charles VIII 745 000 écus d'or et le remboursement des frais de la guerre de Bretagne. Par le traité de Barcelone, en date du 19 janvier 1493, Ferdinand le catholique et Isabelle s'engagèrent à ne point porter secours à leur cousin Ferdinand de Naples et à ne point mettre obstacle au projet de la cour de France en Italie. Il en coûta à Charles VIII, Perpignan, le comté de Roussillon et la Cerdagne, que Jean d'Aragon avait donné en gage à Louis XI pour la somme de 300 000 ducats et que Louis XI n'avait pas voulu lui rendre à l'époque fixée contre la restitution de cette somme, tant le vieux renard royal sentait l'importance de ses portes ouvertes sur les Pyrénées, qu'en cas de guerre, il pouvait fermer en dedans. Enfin, par le traité de Senlis, en date du 23 mai 1493, Maximilien daigna pardonner à la France l'affront qu'il venait de recevoir de son roi. Il en coûta à Charles VIII les comtés de Bourgogne, d'Artois, de Charolais et la seigneurie de Noyers, qu'il avait déjà reçus en dot de Marguerite, plus les villes d'Air, d'Esdin et de Béthune, qu'il s'engagea à rendre à Philippe d'Autriche le jour même de sa majorité. Moyennant ces sacrifices, le jeune roi se trouva en paix avec tous ses voisins et put entreprendre le projet qui lui avait été proposé par Louis Sforza, auquel il avait été suggéré, comme nous l'avons dit, par le refus d'accéder à son plan de députation, refus inspiré par le désir qu'avait Pierre de Médicis de montrer ses magnifiques pierreries et Gentile de prononcer son discours. Ainsi, la vanité d'un professeur et l'orgueil d'un écolier allaient remuer le monde depuis le golfe de Tarente jusqu'au mont Pyrénéen.